Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mails, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Bien, le bois de la République démocratique du Congo est exploité par les artisans ainsi que les industriels. Cependant, cette exploitation ne se fait pas toujours dans les normes. Coupe anarchique du bois, manque de reboisement, etc. Tout cela entraîne la dégradation des forêts et bien d'autres problèmes. Quelles sont alors les normes à respecter, notamment dans l'exploitation des bois en République démocratique du Congo? Frédéric Djengo Bosulu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert au ministère de l'Environnement. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les normes à respecter avant toute exploitation de bois en RDC?
Merci beaucoup. Je crois que tout part de la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002, portant code forestier. Et c'est dans cette loi-là que la RDC a essayé de réglementer l'exploitation forestière. C'est le document de base pour lequel il y a eu aussi beaucoup de mesures d'application et beaucoup d'autres variétés qui partent d'abord de cette notion de base. Donc c'est le code forestier qui a remplacé le décret du 1949. Voilà, c'est ça, c'est la base de la réglementation au niveau de la RDC.
Oui, alors Frédéric, quelles sont les grandes lignes de ce code forestier?
Bon, du coup, il y a des innovations. Je veux dire que dans le code forestier, on a voulu quand même que la forêt remplisse ses différents rôles écologiques, environnementaux, et que aussi la forêt arrive vraiment à contribuer au développement du pays et surtout à la lutte contre la pauvreté et le bien-être des populations souveraines de la RDC.
Mais est-ce que dans la pratique, on a l'impression, d'après certaines informations reçues, ce code n'est pas respecté, il y a eu un tout petit peu une exploitation anarchique des ressources forestières de la RDC?
Ok, bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a la loi et il y a des différences entre la loi et son application sur le terrain. Il y a beaucoup d'arrêtés, de décrets qui sont édités par le gouvernement via le ministère de l'Environnement, mais qui dans l'application sur le terrain n'est pas respectée. Vous savez que le gouvernement n'accorde pas suffisamment de moyens au ministère de l'Environnement pour que ça les suive les contrôles sur le terrain. Mais je dis qu'il y a des réglementations qui sont faites. Vous avez suivi quand même les processus de conversion. Le décret 05/116 du 24 octobre 2005 qui fixait les modalités de conversion des anciens titres forestiers à contrat de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière. Où nous sommes partis les 156 titres à 80 aujourd'hui, passant de plus ou moins 22 millions d'hectares à 12 millions. C'est-à-dire qu'il y a quand même un suivi, un contrôle, une application de la réglementation qui a fait que l'État récupère plus ou moins 10 millions d'hectares qu'il a récupéré auprès des exploitants qui n'existaient que des noms, qui se disaient exploitants, mais qui n'avaient pas du matériel, donc outils d'exploitation et qui ne respectaient pas les normes. Et voilà, et c'est suivi aussi. Nous voulons, en matière d'exploitation forestière, par exemple, nous pouvons parler de l'arrêté 035 de 2006.
Monsieur Frédéric, pouvez-vous nous parler des différentes catégories d'exploitants?
Ok, en RDC, nous avons principalement des catégories d'exploitants. Il y a des exploitants artisanaux et des exploitants industriels. Ce sont les deux grandes catégories d'exploitants. Et pour les exploitants artisanaux, il y a une réglementation qui fait que cette exploitation soit faite par les Congolais, et que la superficie maximum de 50 hectares soit octroyée par permis. Voilà. Il y a des exploitants industriels dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qui sont passés de 156 à 80 et là. On peut être accepté et quitté sans militer à ce que les 80 soient retenus, c'était d'avoir d'abord des statuts qui indiquent que vous faites de l'exploitation forestière, d'être en règle avec le paiement des redevances de superficie et disposer d'une unité de transformation. Voilà, ce sont les deux grandes catégories d'exploitants en RDC.
Alors, parlons d'abord des exploitants artisanaux. Quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir pour lorsque, par exemple, des Congolais se présentent dans vos bureaux, quelles sont les conditions à remplir avant de commencer la coupe de bois?
Ok, la condition, c'est d'abord faire une prospection et trouver un site qui est vacant, donc une forêt qui est vacante, et faire une demande, déposer une demande auprès de la coordination provinciale des provinces forestières ou de toute autre province où on peut trouver un espace qui est libre à exploiter. Et cette demande est déposée au niveau de la province, et la vie favorable est donnée au niveau de la province avec des copies à la DGF, donc à ma direction, au secrétaire général d'environnement et au cabinet du ministre. Après avoir donné son avis favorable au niveau de la province, les documents sont acheminés au cabinet du ministre qui transmet à la DGF pour des avis techniques, et c'est de là qu'on élabore un document que le référent récupère pour aller payer, parce que il faudra aussi dire que en la résidence, on paie 50 dollars à l'hectare. Donc pour 50 hectares, il faut que l'exploitant artisanat paye 2500 dollars au niveau, donc à la banque, au trésor public, et ce n'est que sur présentation de sa quittance et sa preuve de paiement que le ministre peut signer un permis. Donc les critères, il faut trouver d'abord une forêt, un espace qui est vacant, avoir un avis favorable de la coordination provinciale de l'environnement, avoir payé ses redevances, donc au niveau de la banque, amener la preuve de paiement, et là on signe le permis artisanal qui a une validité d'une année.
Validité d'une année. Bien, alors, on va poursuivre tout à l'heure le temps d'accueillir Christian qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute, Christian.
Oui, je salue tous les auditeurs de la radio de la paix, ainsi que notre invité.
Oui, on vous écoute, Christian.
Oui. Vous savez, monsieur, l'invité, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a de bonnes lois, mais qui ne sont pas vraiment respectées. Là, il n'y a pas beaucoup expliqué. Alors, je veux tout simplement savoir quels sont les mécanismes qui sont prévus pour le contrôle de tous les documents que vous venez de parler, et tout. Est-ce que vous n'avez pas de mécanisme de contrôle? Si vous avez ce mécanisme, qu'est-ce que vous avez déjà fait à ce sens? Quels sont déjà qui ont été sanctionnés? Parce que là, vous parlez du bilan du ministère de M. Ndoundou, c'est assez que je sache. Parce que les nouveaux ministres n'ont pas encore nommé leur cabinet. Je ne sais pas si vous êtes du nouveau gouvernement. Alors, si vous êtes du nouveau gouvernement, quelles sont votre vision en faveur de ce qui est de l'environnement? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce qui est fait. Nous savons que ces titres sont donnés aux frères des ministres, aux soeurs des ministres, et tout son sort, ça n'intéresse pas vraiment nous Congolais. Alors, pour exploiter l'espace que vous venez de dire, un hectare à 50 dollars, alors, c'est la personne qui veut exploiter le même qui va choisir le milieu d'exploitation, ou c'est au ministère de l'Environnement de choisir pour la personne.
Merci, Christian.
Alors, voilà, j'ai une question.
Merci, monsieur Frédéric.
Oui, allô?
Oui, vous avez la parole, monsieur Frédéric.
Ok, j'ai bien suivi l'orateur, que je remercie pour sa question. Moi, je trouve que c'était un problème peut-être d'ignorance, les hommes ne veulent pas lire la loi, et aussi des problèmes que nous avons, des moyens de contrôle sur le terrain. Vous savez que l'exploitation artisanale, c'est vraiment une préoccupation pour les ministères, et comme je venais de le dire, ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui choisit des forêts pour un exploitant artisanal. Je crois que nous sommes tous liés par notre coutume, par notre tradition, bien que l'État dise que la forêt, tout doit appartenir à l'État, mais la population perdu ce signe que la forêt, c'est une émanation de leurs coutumes, de leurs parents et tout cela. Et les gens s'organisent à trouver au niveau de leur village, de leur secteur, de leur province, les forêts qui leur appartiennent parfois des coutumes ou quoi. Et c'est à partir de ces forêts-là où ils viennent avec des demandes. Et ces demandes-là, nous, en ce qui nous concerne, nous voyons et nous évitons que ces demandes soient faites au niveau des concessions appartenant aux exploitants industriels. Et quand quelqu'un remplit des conditions, il fait sa demande dans une forêt qui est dans un espace qui est vacant, on suit le processus, les étapes dans que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait sa demande avec copie au ministère et c'est l'autorité provinciale, donc de l'environnement, qui connaît bien sa forêt, qui est plus près de la population, à qui nous confions la responsabilité de nous donner l'avis favorable.
Alors, monsieur Frédéric,
et quand l'avis favorable est donné, il faut que celui qui sollicite la forêt soit capable de respecter la loi en payant ses redevances au niveau du trésor public. Et quand il y avait le trésor de paiement, on donne maintenant le permis. Mais ce qui est vrai, c'est que quand le monsieur va couper, il faudra que les gouvernements, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, mettent à la disposition des techniciens du ministère de l'Environnement, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, des moyens pour arriver sur place et contrôler réellement si ce qui a été attribué, le volume, la superficie est bien respectée. Et c'est ça le problème.
Oui, alors, je pense que c'est pas
le ministre qui donne des forêts. Au contraire, le ministre de l'Environnement, c'est pas pour que tout soit coordonné au niveau des pays sur ça. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des autres, c'est au niveau surtout des gouvernements provinciaux, où on trouve les gens qui donnent des forêts à n'importe qui, et il y a nous à Kinshasa, à part quelques demandes qui nous proviennent de la province de Bandundu et de l'Équateur, le reste du pays, on ne reçoit pas de demandes. Il y a des bois qui est coupé.
Monsieur Frédéric,
oui.
Et qui est habilité à délivrer les permis d'exploitation?
Bon, jusque là, je crois que là aussi, il y a à dire, beaucoup à dire, parce que bon, au niveau de la constitution, je crois qu'on parle du gouverneur, on parle de, et ce sont des choses que nous devons essayer de que le gouvernement doit réglementer, doit planifier. Aujourd'hui, on peut dire que bon, voilà, c'est les gouvernements. Pour le moment, pour ne pas tergiverser, pour le moment, c'est les ministres de l'environnement qui délivrent. Permis.
C'est le ministre de l'Environnement.
Avec un avis favorable de coordination provinciale.
Bien. Stéphane nous appelle les Mbujimayi. Bonjour. Stéphane, vous êtes un Mbujimayi. Bonjour. Vous êtes au Kassai occidental. Désolé, Stéphane, la qualité de la liaison. La liaison n'est pas très bonne. On va peut-être vous rappeler plus tard. Monsieur Frédéric Zengo, nous poursuivons. Nous parlons des normes à respecter dans l'exploitation de bois en République démocratique du Congo. Alors, est-ce que la procédure est toujours la même pour les exploitants artisanaux et les industriels?
Non, les industriels, comme j'ai dit, il y a des industriels qui ont été retenus parmi les 156.
Oui.
Il y a 90 qui ont été retenus. Et en ce qui concerne les industriels, j'ai essayé de vous expliquer les critères qui ont milité pour qu'ils soient retenus. C'est-à-dire que disposer des statuts où figure la mention exploitation forestière, être en arrêt de paiement des révérends de superficie et disposer d'unité de transformation. Bon, en ce qui concerne les affaires industrielles, il faut des concessions, donc des anciennes garanties d'approvisionnement qui sont en train d'être converties en contrat de concession forestière. Et là, ce sont des concessions qui sont bien connues, avec des superficies bien connues, qui sont convertibles, mais d'ici la fin de l'année, pour que quelqu'un prétende que la concession lui revient, auquel il faudra remplir des conditions. Donc, il faudra avoir signé son contrat de concession forestière avec les gouvernements représentés par le ministère de l'Environnement. Et dans ces contrats, il faut qu'il y ait un plan de gestion. Donc, il faut présenter un plan de gestion et un cahier de charges.
Alors, Monsieur Frédéric, il faut un plan de gestion et un cahier des charges. Nous savons que généralement, les industriels ont souvent des conflits avec les autochtones parce qu'ils exploitent, mais les autochtones ne voient pas leur environnement, ne bénéficient pas de cette exploitation. Alors, ce qui crée souvent des conflits, alors ça nous amène à poser la question de savoir quels sont les droits et les devoirs des exploitants forestiers.
Ok, je pense qu'en parlant du plan de gestion, il faudra quand même que pour les 4 prochaines années, qu'un exploitant essaie de déterminer ce qu'on appelle les 4 premières années de coupe. Donc là, il va couper son bois et qu'il détermine aussi l'explique des mesures qui sont prises pour protéger la forêt, l'environnement. Il précise tout cela et il essaie aussi de déterminer les infrastructures qui seront construites, le chronogramme de mise en œuvre de toutes ces activités-là. En ce qui concerne le cas des charges, je crois qu'il va aussi négocier avec les communautés locales et peuples autochtones, les infrastructures qui doivent être mises en place. Et c'est là où nous insistons. Il y a aussi la société civile qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons comme un suivi des mises en œuvre de ces infrastructures. Et c'est une condition, et là, le problème c'est quoi? Les infrastructures socio-économiques, on fait allusion surtout aux écoles, aux centres hospitaliers, à des routes et des sites agricoles, à d'autres facilités. Et aussi, nous venons voulu. C'est l'une des conditions qui a fait que beaucoup d'exploitants soient éliminés. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est quoi? C'est améliorer le bien-être de la population, les conditions de la population. Et là, on insiste en ce qui concerne les cahiers de charges que les exploitants mettent à la disposition des communautés locales une caisse, donc un fonds de développement. Un fonds de développement qui doit être géré par les communautés elles-mêmes. Et c'est ce qu'on est en train de suivre, le processus est en cours. Et d'ici là, les sociétés qui vont présenter leurs plans, qui vont présenter leurs plans de gestion et leurs cahiers de charges seront visités. Nous serons accompagnés des autres indépendants, de la société civile, du ministère, pour vérifier réellement si ces clauses sociales ont été respectées. Parce que tout ce que nous disons, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations locales.
Alors, oui, Monsieur Frédéric Django, nous supposons que l'exploitation forestière est un investissement, l'exploitation de bois est un investissement qui demande beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le capital qu'il faut avoir pour démarrer?
Bon, je ne suis pas exploitant, et ce que je voulais peut-être dire, c'est que ce que vous venez de dire,
d'après les normes,
dans la mesure où, sur les 80 titres qui sont convertibles, 80%, plus de 80% par exemple, ce sont des sociétés à capitaux étrangers, pour dire que ça demande quand même beaucoup de moyens. Et je ne peux pas donner un chiffre exact parce que je ne suis pas exploitant, mais je sais que pour avoir une unité de transformation, c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent.
Ce que nous demandons aussi au comité local, aux populations, au comité local, aux populations, de comprendre que quand un exploitant investit, par exemple, un commerçant, il vise aussi à faire des bénéfices. Et que les exploitants ne peuvent pas aussi remplacer l'État. Ils sont pas là surtout seulement pour construire des écoles, pour réhabiliter les routes et tout cela, mais ils investissent pour faire des bénéfices. Mais ils doivent quand même améliorer les conditions des populations dans les milieux auxquels ils travaillent. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, c'est vraiment beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent.
On ne veut pas avoir de sociétés à capitaux. Au niveau national, c'est parce que ça coûte cher. Mais nous demandons aussi que notre gouvernement essaie de voir comment on peut appuyer les exploitants forestiers. Et ça crée des problèmes parce que toutes les sociétés qui n'ont pas été converties à 60%, ce sont des sociétés à capitaux national et qui fait des problèmes.
Oui, monsieur Frédéric,
depuis quelques décennies et qui
se demande
parce qu'il ne peut pas changer de métier. Et ils se sentent tous presque réversés dans l'exploitation artisanale. Ce qui cause des problèmes maintenant, qu'il y ait beaucoup d'exploitations illégales à cause de ça.
Oui, monsieur Frédéric, on va passer tout à l'heure le temps d'accueillir Michel qui nous appelle des Calémy. Vous voulez également participer? Composez le 081 896 63 94.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Quelles sont les normes à respecter dans l'exploitation du bois en République démocratique du Congo? Frédéric Djengo Bosoulou, directeur des forêts au ministère de l'Environnement, est l'invité du magazine Okapi Service. Michel nous appelle des Calémy. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Allô?
On vous écoute, Michel.
Je se croyais un terrain pour le reboisement. Quelle procédure à suivre et quel montant à payer par hectare? C'est ça ma préoccupation.
Ouais, et si vous pouvez répéter, vous voulez dire si quelqu'un veut avoir un terrain pour le reboisement, c'est ça?
Oui. Quelle procédure à suivre et quel montant à payer pour par hectare plutôt?
Bien, merci. Kapinga est en ligne depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, la radio Capier, bonjour, Lucas.
On vous écoute.
Bon, je voudrais vous demander quelles sont les espèces de bois qu'il faut couper et quelles sont les.
Kapinga n'est plus en ligne, désolé. Là, sa question était de savoir quelles sont les espèces de bois qu'il faut. Qu'il faut couper et certainement les espèces qu'il ne faut pas aussi couper. Frédéric Djengo.
Ok, bon, je pense que celui qui a demandé. Qui a posé la question sur les reboisements, nous encourageons toute personne, toute organisation qui veut se lancer dans les reboisements, considérant que la RDC est un pays forestier, mais la forêt est inégalement répartie. C'est surtout la Guinée centrale qui est moins habitée, qui dispose des forêts, alors que le nord, l'est et le sud-est, ça n'ont pas de forêt, et nous encourageons les reboisements. En ce qui concerne les espèces à couper, la RDC dispose de plus ou moins 1000 espèces d'arbres, et bien, jusque-là, il y a seulement une trentaine qui est commercialisée. C'est que le ministère n'a pas imposé les essences à couper. Je sais que, dans la plupart des cas, ce sont des bois rouges, donc des bois rouges qui sont coupés, et les deux essences phares, le plus cher que nous avons, le Wenge et la Formosa, qui sont les plus exploités et qui sont imposés par des demandeurs occidentaux, parce que tout exploitant a ses clients au niveau de l'Occident et qui font des commandes. Mais nous encourageons la promotion des essences parce que, comme je venais de le dire, nous avons peut-être plus de 700 essences à exploiter. Tout exploitant ou toute personne qui a des contacts et qui voudrait faire des recherches, qui veut faire des études, ou telle ou telle essence à couper, l'environnement n'a pas une liste figée des essences à couper.
Voilà. Sauf qu'il y a plus de 700.
Dans le projet d'exploitation, il faudra que les diamètres exploitables qu'il faut couper, c'est au-delà de 60 cm.
Est-ce que le code forestier prévoit qu'il faut aussi immédiatement procéder au reboisement après la coupe?
Tout à fait. Bon, comme on dit, c'est coupe et reboise. Au niveau du ministère, on avait en son temps, dans les années 85, constitué un fonds de reconstruction forestier, où était versé de l'argent et on pouvait faire du reboisement, c'était dans des sites qui n'ont pas de bois et il y avait des dégâts de reboisement un peu partout. C'est ça qui a été remplacé actuellement par le Fonds forestier national et le ministère s'organise pour qu'il y ait vraiment suffisamment de moyens et qu'au niveau des provinces, au niveau des Kinshasa, les projets soient élaborés et transmis à ces fonds-là
pour
la réalisation. Aussi, nous avons des partenariats avec des organismes internationaux. Je crois que vous aviez suivi ce qui se fait savoir au port de Bateke à Mampou avec l'Union européenne. On a fait
avec la formation à
Rantaïa. 10 000 hectares de l'acacia. Je crois que c'est important.
Oui.
Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Il y a l'exploitation forestière, il y a les climats et tout. Et aussi, nous avons des problèmes d'énergie bois. Il faudra, s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de forêt pour l'énergie bois, et les forêts naturelles seront toujours soumises à des pressions pour la vie
du climat. Monsieur Frédéric,
ce sont des plantations énergétiques.
Voilà. Monsieur Frédéric, est-ce que l'exportation du bois rapporte au trésor public?
Rapporte au trésor public. Oui, je pense que c'est vraiment une opportunité, c'est une piste que les gouvernements doivent explorer, parce que jusque-là, ça ne contribue pas tellement au PIB, plus ou moins 1%, alors que dans d'autres pays limitrophes, qui ont moins de forêts que nous, c'est parfois au-delà de 5%. Et c'est une opportunité, nous devons nous organiser avec tout ce que nous avons comme arsenal de lois et tout, nous devons nous organiser petit à petit pour que ça contribue réellement au développement du pays.
Bien, merci Frédéric Djengo Bossoulou, nous rappelons que vous êtes directeur des forêts au ministère de l'Environnement. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup pour avoir pensé à moi et je remercie tout le monde qui m'a suivi. Et je m'excuse pour tout autre désagrément que je puisse peut-être causer à aux uns et aux autres.
Non, il n'y a pas de désagrément, vous avez rendu service à la population. Merci à la prochaine.
Merci beaucoup, merci.